Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à notre Michel Platini national. Il est le meneur de jeu emblématique de l'équipe de France de 1976 à 1987 et en club de la Nancy-Lorraine, de la Saint-Étienne puis de la Juventus de Turin. Il a marqué 468 buts durant sa carrière. Platini est considéré comme un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. Il est le premier footballeur à remporter le Ballon d'Or trois fois consécutivement, de 1983 à 1985. Avec l'équipe de France, il est 50 fois le capitaine de 1979 à 1987. Il soulève son premier trophée international à l'issue de l'Euro 1984, remporté en finale face à l'Espagne, 2-0. Et deux fois demi-finaliste de la Coupe du Monde, en 1982 en Espagne et en 1986 au Mexique. Michel Platini est né le 21 juin 1955 à Jeuf, en Meurthe-et-Moselle. Il est petit-fils de paysans du nord de l'Italie qui venus s'installer en Lorraine après la Première Guerre mondiale comme mineurs et maçons. La région de Jeuf, en Meurthe-et-Moselle, est d'ailleurs surnommée la Petite Italie. La mère de Michel, Anna Platini, est la fille du patron du Café des Sportifs de Jeuf. Son père, Aldo Platini, est né en Lorraine. C'est un joueur de football amateur qui n'ose pas franchir le pas du professionnalisme, préférant épouser une carrière plus stable de moniteur de mathématiques et d'éducation physique. Il est capitaine de l'équipe amateur de Lorraine et est approché par des équipes professionnelles autour de ses 28 ans. Trop tard à son goût. Michel est élevé dans un milieu sportif, ses oncles jouant au basketball. Son père reste toutefois très proche des terrains, devenant entraîneur de l'équipe de division 3 de la AS Nancy-Lorraine lors du départ de son fils. Jeune, Platini n'est pas retenu lors de stages de sélection par le football club de Metz. Platini opte alors pour la AS Nancy-Lorraine et rejoint l'équipe réserve en septembre 1972. Il fait la connaissance de Jean-Michel Moutier, jeune gardien de but de la réserve, qui devient rapidement son ami. Avec Nancy, il remportera la Coupe de France 1978. Il signe l'unique but de la finale contre l'OGC Nice. Les trois années de Michel Platini à l'AS Saint-Étienne de 1979 à 1982 se soldent par un bilan mitigé. Platini échoue cependant à deux reprises en finale de la Coupe de France, tout d'abord face au Sporting Club de Bastia, défaite 2-1 en 1981, puis l'année suivante contre le Paris Saint-Germain, son dernier match avec Saint-Étienne. Il aura alors joué avec le club stéphanois 146 matchs pour un total de 82 buts. Michel Platini garde de ses années dans le Forez un souvenir contrasté. Pour le meilleur, un titre de champion de France dans un des meilleurs clubs français et le pic de sa forme physique. Platini estime lui-même que c'est en 1982 à Saint-Étienne qu'il était le plus fort individuellement. Pour le pire, outre l'absence d'un trophée européen et de ses deux défaites en finale de la Coupe de France, l'affaire de la caisse noire, où il a perçu illégalement, comme d'autres joueurs de la Saint-Étienne, une somme importante en liquide. Transféré à la Juventus de Turin durant l'été 1982, Platini est rattrapé par la justice pour cette affaire. Il est condamné à une peine de prison avec sursis, qui est par la suite amnistié. La finale européenne de 1985, disputée au Heysel contre Liverpool, aurait dû être le sommet de sa carrière avec la Juventus de Turin. Mais le drame du Heysel constitue, sans conteste, le plus pénible souvenir de sa carrière. Auteur du seul but de la rencontre, Michel Platini se retrouve au centre d'une polémique médiatique dans les jours qui suivent le drame. Certains lui reprochant son manque de retenue dans la célébration de la victoire. Mais Platini se défendra en soutenant que, tout comme l'ensemble des joueurs de la rencontre, il avait été laissé dans l'ignorance de l'ampleur du drame. 40 personnes avaient perdu la vie avant le coup d'envoi. Platini a toujours dit qu'il avait joué pour qu'il n'y ait pas plus de morts, que le match avait peut-être évité la guerre à l'extérieur, que la police leur avait demandé de faire un tour d'honneur pour que les supporters de Liverpool aient le temps de quitter le stade. Usé physiquement, Platini dispute une ultime saison à la Juventus de Turin avant de prendre sa retraite sportive le 17 mai 1987. Lors de son dernier match contre Brescia et une victoire 3 buts à 2, près de 30 000 tifosi viennent lui dire adieu. C'était le joueur préféré de Agnelli, le patron de la Fiat. Platini est sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France contre la Tchécoslovaquie le 27 mars 1976, score nul de 2 à 2. C'est également une première pour le nouveau sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo. Lors des matchs de préparation pour la Coupe du Monde 1978, il convient de signaler celui disputé à Naples face à l'Italie le 8 février 1978. Platini est éblouissant devant tous les recruteurs des clubs italiens venus superviser la nouvelle petite merveille française. Platini stupéfie tout le monde en trompant deux fois le légendaire gardien Dino Zoff sur coup franc direct. Mais lors de la Coupe du Monde 1978 en Argentine, dans le même groupe que l'Italie et l'Argentine, la France est trop tendre pour espérer s'en sortir. Au Mondial espagnol de 1982, les Bleus se hissent jusqu'en demi-finale contre la RFA pour une rencontre de légende, perdue à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Une génération pure, un carré magique, des Brésiliens de l'Europe, la puissance du football qui fabrique du collectif et de la fraternité. Michel Platini considère aujourd'hui ce match comme le plus grand souvenir de sa carrière. Séville 1982. C'était le temps de l'insouciance du football français, un football romantique. Grâce à Platini, la France a remporté son premier titre international à l'Euro 1984, sur lequel il avait plané 5 matchs, 9 buts, 2 triplés parfaits. Il débloque la finale contre l'Espagne à la 53e minute, sur coup franc. S'il suit bien la trajectoire que le capitaine français donne à la balle et se couche pour pouvoir la capter, le gardien espagnol Luis Orcanada a toutefois la très mauvaise idée de la laisser filer sous son corps. 1-0 pour la France. Bruno Bellone pourra ajouter un second but en toute fin de rencontre. En 1986, affaibli par une pubalgie tenace, jouant sous infiltration, Michel Platini n'est pas véritablement en mesure de justifier sa réputation de meilleur joueur du monde à l'occasion de la Coupe du Monde de football 1986 au Mexique. Il se montre pourtant décisif en plusieurs occasions, notamment contre l'Italie en 8e de finale, ouverture du score, et contre le Brésil en quart de finale lors de l'égalisation à un but partout. Participant en pointillé à la campagne infructueuse de qualification pour l'Euro 1988, Platini honore sa dernière sélection en bleu le 29 avril 1987 contre l'Islande. À peine plus d'un an après sa retraite en tant que joueur, il est nommé sélectionneur de l'équipe de France de football le 1er novembre 1988. Il remplace Henri Michel, poussé dehors à la suite de la mauvaise entame des Bleus dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 1990. L'arrivée de Platini ne change rien et la France est absente du Mondial italien. À la fin du mois de novembre 1988, Michel Platini se rend dans le golfe Persique, où il doit assister au match d'ouverture de la Coupe d'Asie des Nations de football se tenant au Qatar le 2 décembre. Il est convié par l'émir du Koweït au match Koweït Urs, le 27 novembre. Il dispute à l'étonnement du pan soviétique les 21 premières minutes de la rencontre sous les couleurs du Koweït, se soldant par une défaite koweïtienne sur le score de 2-0. La FIFA compte ce match comme un match officiel international. Platini compte donc une sélection en équipe du Koweït. Surprenant, quand on connaît l'intrusion sur le terrain de Valladolid le 21 juin 1982 du frère de l'émir du Koweït lors du match de poule France-Koweït en vue de faire annuler un but. Les échéances survenant après la Coupe du Monde 1990 sont les éliminatoires de l'Euro 1992, organisées en Suède. Mais l'échec à l'Euro, élimination au premier tour, pas une seule victoire, le pousse à démissionner le 2 juillet 1992. Membre du comité exécutif de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, et membre du comité exécutif de la FIFA depuis avril 2002, Platini devient président de l'UEFA le 26 janvier 2007, pour une durée de 4 ans. Il est élu à la majorité absolue au premier tour du scrutin du congrès de Düsseldorf, en Allemagne, par les 52 fédérations membres de l'UEFA, une fédération valant une voix, avec 27 voix contre 23, deux votes étant nuls. Son adversaire, le Suédois Lennart Johansson, 77 ans, ancien président de l'UEFA depuis 1990. En 1998, à Paris, Sepp Blatter accède au pouvoir de la FIFA. Il succède au Brésilien João Havelange, qui avait accédé à la tête de la FIFA en 1974. Platini devient le conseiller spécial de Blatter, en même temps que vice-président de la Fédération française de football. L'homme d'affaires brésilien, João Havelange, avait fait appel à un homme à tout faire, Sepp Blatter. C'est un pacte faustien. Le premier décide, le deuxième exécute. Blatter a beaucoup appris de Havelange, au niveau politique, par exemple l'achat des voix de pays africains. Mais son génie est d'impulser le marketing et les droits de télévision, de retransmission des matchs, d'établir des contrats généralement non écrits avec de grands groupes comme Coca-Cola ou Adidas. À l'époque, apparaissent déjà de nombreux pots de vin, mais la justice suisse classe les affaires car la corruption n'est pas un délit en Suisse. La faillite de la société suisse International Sport & Laser, ISL, en 2001, avec des dettes de plusieurs dizaines de millions d'euros, révèle le premier gros scandale de corruption touchant la FIFA. L'entreprise avait obtenu l'exclusivité de la vente des droits marketing de plusieurs Coupes du Monde. En 2002, le détournement de fonds est évoqué en pleine conférence de presse de la FIFA. Le rapport 2002 est enterré, car Blatter est de nouveau élu en 2002. Le 23 novembre 2010, 9 jours avant le vote pour désigner le pays hôte de la Coupe du Monde 2022, un déjeuner à l'Élysée réunit Nicolas Sarkozy, le président, Michel Platini, alors patron de l'UEFA, et le prince héritier du Qatar et son premier ministre. Au cours de cette réunion, il a tour et tour été question du rachat du Paris Saint-Germain par les Qataris, devenus effectifs en juin 2011, d'une montée de leur actionnariat au sein du groupe Lagardère, de la création d'une chaîne de sport, la future Bein Sport, pour concurrencer Canal+, le tout en échange d'une promesse que Platini, président de l'UEFA, ne donne pas sa voix aux États-Unis, mais comme il l'avait envisagé, mais plutôt au Qatar. Et le 2 décembre 2010, la FIFA accorde la Coupe du Monde 2018 à la Russie et la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Qatar l'emporte au détriment des États-Unis qui, déçus, lanceront les policiers du FBI dans les arcanes financières de la FIFA en Suisse. Selon Vincent Duluc, dans son dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, Platini n'aurait pas dû révéler qu'il avait voté pour l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar après un dîner à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy. Il aurait dû être âpre au gain dès la première heure, secret et hypocrite. Mais cela lui aurait fait la même armure que les autres. Bien que la justice ait fini par l'acquitter, Michel Platini n'est pas devenu le roi du monde. C'est Gianni Infantino, l'Italo-Suisse, natif de Calabre, formé dans l'ombre de Platini, qui accède en 2016 à la présidence de la FIFA. La FIFA est aujourd'hui un empire financier de 8 milliards de dollars. Elle regroupe 211 fédérations nationales. Si longtemps après, on ne sait toujours pas de qui, ni de quoi Michel Platini a été la victime, de sa propre légèreté ou imprudence avec l'argent, ou d'un complot ourdi par les salariés de la FIFA qui, pour garder le contrôle, ont exhumé une facture ancienne et une concordance des temps problématiques. Platini a été léger, insouciant, il a été platoche, en somme. Il était sur un terrain comme il était dans la vie.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.